Le journal, Régis Maria.
Bonjour, le pape François est mort hier matin d'un AVC. Le souverain pontife avait 88 ans et occupait le trône de Saint-Pierre depuis 2013. Que s'est-il passé depuis l'annonce du Vatican et que va-t-il se passer ces prochains jours? On fait le point en ouverture de ce journal. Déjà 12 féminicides recensés en Suisse en 2025. À titre de comparaison, l'année précédente en comptait 19. C'est donc un début d'année alarmant selon plusieurs organisations. Analyse de cette augmentation dans cette édition. La 8e fête de la tête de moine dans les Starting Block, la manifestation se tiendra à Belley du 2 au 4 mai prochain. Pour la première fois, le centre de formation destiné aux réfugiés à Belley tiendra lui aussi un stand. Météo, pas mal de soleil aujourd'hui malgré quelques nuages, plus présent cet après-midi. Bonne nouvelle, le temps restera sec au moins jusqu'à demain. Côté température, on attend au maximum 14 degrés à Tramelan, 15 à Reconvilliers, Tavannes et Saint-Imier, 17 à Moutier et jusqu'à 18 degrés au bord du lac de Bienne. Les cloches de la basilique Saint-Pierre ont sonné le glas, les drapeaux jaunes et blancs du Vatican sont en berne, le chef spirituel de plus d'un milliard de catholiques s'est éteint ce lundi de Pâques, 21 avril à 7h35 du matin, à l'âge de 88 ans. Alors que réactions et hommages continuent d'affluer du monde entier, que va-t-il se passer maintenant? On fait le point avec notre correspondant en Italie, Antonino Gallofaro.
Alors le pape a déjà été mis en bière. Hier soir à 20h a en effet eu lieu le rite de constatation de son décès de la part du camerlingue. Puis des scellés ont été placés sur les portes des appartements pontificaux dans le palais apostolique, comme le veut l'usage. Et ce, même si le pape avait décidé de vivre dans une chambre plus sobre et plus simple dans la maison Sainte-Marthe, là où d'ailleurs il est mort. Aujourd'hui doit se réunir la première congrégation générale. C'est la réunion des cardinaux déjà présents à Rome, chargés de gouverner l'église jusqu'à l'élection du prochain pontife. Et aujourd'hui, ils doivent décider quand exposer le cercueil dans la basilique Saint-Pierre pour un dernier hommage public des fidèles. Selon le Saint-Siège, cela pourrait déjà avoir lieu demain matin. Puis les funérailles devraient se tenir vraisemblablement entre vendredi et dimanche. Selon le testament de François publié hier, il sera enterré non pas dans la basilique Saint-Pierre, mais dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure, la même où il se rendait en dévotion à la Vierge Marie avant et après chaque voyage.
Et on l'a appris ce matin, les obsèques du pape François se dérouleront ce samedi à Rome dès 10h, annonce faite par le Vatican qui précise également que le cercueil du souverain pontife sera exposé à partir de demain 9h à la basilique Saint-Pierre de Rome où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. Le Saint-Siège a également diffusé ce matin les premières images du pape François dans son cercueil ouvert dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican où il vivait. Il porte une mitre blanche, un chasuble rouge et est entouré de deux gardes suisses. Les gardes suisses qui ont été marqués par le charisme de l'Argentin à l'image de Tanguy Ackermann, président de l'association des anciens gardes pontificaux de l'arc jurassien. Il a servi le pape François entre 2018 et 2020. Il nous explique comment la garde a dû se réorganiser pour assurer la sécurité du pape, notamment à travers son choix de vivre à Sainte-Marthe plutôt que dans les appartements pontificaux. Tanguy Ackermann.
Tout d'abord, ça a été un vrai défi logistique de sécurité pour la garde suisse. On a perturbé près de 5 siècles de procédures. On avait le pape tout près de notre caserne, dans un palais assez cloisonné finalement. Il a décidé d'aller à l'autre bout du Vatican. Donc ça a été surtout un défi logistique, mais il nous a aussi permis de se renouveler. On écoute le chef veut déplacer sa maison, on le suit.
C'est vrai que lui, il aimait la foule. Il vous a mis en difficulté, vous, ses gardes, quand même, de par son envie d'être très proche du peuple?
Alors c'était un vrai défi de sécurité, effectivement, surtout dans les premiers temps. Le pape avait l'idée d'aller faire un tour sur la place Saint-Pierre, il y allait. Et ça, c'était vraiment des sueurs froides pour le commandant de la garde et le commandant de la gendarmerie vaticane. Progressivement, on a pu prendre le pli du pape François et de s'adapter au maximum à ses contraintes. Mais lui aussi a appris qu'il devait aussi un peu se ménager parce que faire des choses qui n'est pas prévues, pour le pape, il doit rester constamment en état d'éveil. Et les gens qui rencontrent le pape, même par hasard, on ne sait pas quelle réaction ils auront. Des fois, ils sont pétrifiés, des fois, ils sont très enthousiastes. Il a fallu apprendre et composer avec le charisme du pape François.
C'était Tanguy Ackermann, président de l'association des anciens gardes pontificaux de l'arc jurassien. Il répondait à Cyprien Lovi. 12, c'est le nombre de féminicides déjà recensés en Suisse en 2025 contre 19 l'année précédente. C'est donc un début d'année alarmant selon plusieurs organisations qui appelaient la semaine dernière à plus de mesures pour protéger les victimes. Au début du mois, 300 personnes se sont justement rassemblées à Berne pour dénoncer le manque de protection des femmes en Suisse. À Bienne, l'association Solidarité Femmes Région Biennoise accueille des femmes et des enfants victimes de violences domestiques. Mila Meritouré est coordinatrice au sein de la maison d'accueil. Elle nous aide à comprendre ces chiffres.
En hausse.
Ce type de hausse, c'est difficile à expliquer. Il y a des facteurs de risque, évidemment. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le féminicide, c'est en fait la pointe de l'iceberg des questions de violence domestique. Et ce qui est important, c'est de pouvoir parler de la violence domestique dans le débat public. Et puis, c'est vrai que les questions féministes, elles sont un petit peu plus portées, justement, dans le débat médiatique, le débat public. Et ça a peut-être pu faire prendre conscience à certaines femmes que leur situation n'était pas acceptable. Et puis, du coup, elles prennent la décision de partir. Et on sait que le moment où une femme quitte son partenaire est un moment à haut risque. Alors, ça pourrait être une raison. Et puis, évidemment, il y a aussi eu l'élection et l'arrivée de Donald Trump qui a libéré la parole masculiniste. Et peut-être que certaines personnes se sentent plus légitimes dans certains actes de violence ou voire de féminicide. Ça pourrait être des raisons, mais il n'y a pas des explications concrètes.
Selon l'Office fédéral de la statistique, les cas de violences domestiques avaient déjà augmenté de 6% en Suisse en 2024. En mars, le Conseil national a justement accepté un postulat à ce sujet. Le texte demande au Conseil fédéral de mener une étude pour évaluer la faisabilité de recenser les féminicides en Suisse. Pour l'instant, aucun chiffre officiel ne les recense. Qu'en est-il dans la région ? Fait-on le même constat d'augmentation de la violence envers les femmes ? Les détails de Mila Murie-Touré.
Ce qui est important de dire, c'est qu'on a toujours une augmentation des demandes d'aide des femmes. Ce n'est pas parce qu'une femme demande de l'aide encore qu'elle est recensée parce qu'elle ne dépose pas forcément plainte. Mais dans le canton de Berne, en 2024, il y a eu plus de 21 000 infractions liées à la violence domestique et c'est une augmentation d'à peu près 6%. Donc une augmentation, ça se perçoit. Nous, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on accueille de plus en plus d'enfants à la maison d'accueil, ce qui est évidemment une population assez vulnérable et puis qui sont directement très impactés par les questions de violence domestique, voire de féminicide.
Un dossier réalisé par Manon Becker. En 2022, les statistiques fédérales révélaient qu'en Suisse, la majorité des féminicides avaient été commis par le partenaire actuel ou ancien de la victime. Plus de 70% d'entre eux se sont déroulés au domicile de la victime. La ville de Bienne invite les adeptes du vélo tout-terrain à faire preuve de prévenance. Dans un communiqué publié ce matin, les autorités biennoises rappellent que le printemps attire à nouveau de nombreux adeptes du VTT dans la nature, particulièrement dans la forêt au-dessus du quartier de Beaumont ou la descente entre Macolin et Bienne. Afin d'éviter les tensions, la ville de Bienne invite à une cohabitation respectueuse au moyen d'une campagne d'affichage à 9 endroits de Beaumont et près du funiculaire de Macolin. Elle rappelle également que les VTTistes doivent s'en tenir au chemin officiel et respecter les piétons, que ce soit en forêt, sur les sentiers de randonnée ou dans les zones d'habitation. Les organisateurs de la fête de la tête de moine sont en plein préparatif. Le week-end du 2 au 4 mai se tiendra la 8e édition à Bellelay. Des sculptures en foin sont déjà visibles aux abords de la maison de la tête de moine. Pour la toute première fois, l'événement accueillera un représentant des autorités fédérales. La conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider sera en effet présente le samedi matin lors de la partie officielle, tout comme le candidat malheureux au Conseil fédéral et président de l'Union suisse des paysans Markus Ritter. Pour cette édition, le centre de formation destiné aux réfugiés à Bellelay tiendra également une tente. Les explications de Markus Gerber, maire de Secours et président de la fête de la tête de moine.
Donc l'idée est née, c'est un contact en travers de Pierre-Alain Schneck, donc le conseiller d'État du canton de Berne, qui est responsable du site. Donc son personnel nous a contactés pour demander est-ce qu'on pourrait travailler ensemble sur la fête. Et puis on a finalement opté pour qu'ils dressent une tente devant l'abbatiale, donc tout près du centre, qui accueillera les visiteurs. Et puis on pourra déguster une ou l'autre spécialité des pays que ces clients qui sont dans le centre viennent. Et puis je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'il y ait un échange aussi sur site avec ce centre de la Croix-Rouge qui est ici sur Bellelay. Et puis que finalement, il y a une discussion ouverte avec les visiteurs, les gens qui sont les citoyens donc, de la commune et puis du site, mais aussi les gens qui vivent maintenant à travers ce centre de formation ici sur Bellelay. Et puis c'est dans cette convivialité qu'on souhaite la bienvenue à tout le monde ici à Bellelay.
À noter que le samedi, le roi de la lutte 2013, Mathias Sempar, ambassadeur de l'interprofession de l'Emmental AOP, et Lucas Renfer de Corgémont, ambassadeur de l'interprofession Tête de Moine, s'affronteront dans une course avec une meule d'Emmental de 100 kilos. Jacques Gerber a pris sa mission très à cœur. L'ancien ministre PLR jurassien, désigné délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine depuis le début de l'année, rentre d'une mission de 2 semaines à Kiev. Il est chargé de coordonner l'aide suisse sur place et d'inciter des entreprises suisses à investir en Ukraine pour permettre sa reconstruction. Jacques Gerber a vu sur place des Ukrainiens prêts à tout pour leur liberté. On l'écoute.
C'est un État qui fonctionne, qui se doit de fonctionner malgré cette situation atroce. J'ai rencontré un peuple qui veut se battre, qui sait ce que c'est que la liberté individuelle, liberté de choisir, liberté de penser, mais également liberté de développer son pays comme il l'entend à travers justement les mécanismes démocratiques. Cette dynamique-là que j'ai rencontrée en Ukraine n'est pas prête de disparaître. En tout cas, ils se battront pour que ça ne se passe pas, même que les pertes sont atroces, même que la vie quotidienne est extrêmement difficile. Ils restent convaincus de leur combat pour leur pays qui n'a peut-être jamais réussi jusqu'à aujourd'hui, mais dont on espère que demain, ce sera possible.
Le délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine, Jacques Gerber, dispose d'une enveloppe de 300 millions pour cette année et de 1,5 milliard pour les quatre prochaines années. Le programme Ukraine de la Confédération prévoit une contribution à une reconstruction globale du pays. Jacques Gerber.
Il faut aider l'Ukraine à se reconstruire et dans une définition globale de la reconstruction. Il y a bien sûr la reconstruction d'infrastructures, de routes, d'écoles, d'hôpitaux, mais il y a également toute la reconstruction de la société, aider les gens avec des problèmes psychologiques. C'est vraiment une notion globale de la reconstruction auquel la Suisse entend apporter son soutien. C'est vraiment l'objectif du programme Ukraine. Ce n'est pas simplement aider des entreprises suisses à aller augmenter leurs affaires en Ukraine.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Les salaires ont progressé l'an dernier en Suisse. L'Office fédéral de la statistique fait état d'une hausse de 1,8% en comparaison annuelle, une hausse plus élevée que les deux années précédentes. Elle atteignait 1,7% en 2023 et 0,9% en 2022. L'inflation atténue toutefois cet effet et l'évolution des salaires est aussi très variable selon les secteurs. Le secteur tertiaire est mieux loti. L'augmentation atteint 3% dans les domaines de la santé, de l'hébergement médico-social et des activités de poste et de courrier par exemple. Une fusion dans le monde des assurances. La Baloise et Helvetia ont décidé d'unir leurs forces d'ici à 2028. Le groupe qui réunira les deux acteurs balois et saint-gallois comptera plus de 22 000 collaborateurs et deviendra donc le numéro 2 de la branche en Suisse. Cette fusion doit permettre de réaliser des synergies annuelles, indique un communiqué. Des suppressions d'emplois sont aussi prévues, mais les deux assureurs espèrent pouvoir jouer sur les fluctuations naturelles.
RJB, il est 12h27. Régis Meria, on va passer à notre page sportive.
RJB Sport.
L'inline hockey retrouve des couleurs au féminin. Un championnat de Suisse sera à nouveau organisé cette saison. 6 équipes seront alignées, notamment Rosmaison et Basse-Cour dans la région. Et après plusieurs années de disette, l'IHC Bienne présentera aussi une équipe féminine. Jessica Murizet, joueuse de l'équipe biennoise et membre du comité central de la Fédération Suisse d'Inline Hockey, fait part de sa satisfaction.
Le challenge, c'était surtout qu'avec une nouvelle halle pour le club de Bienne, c'était de pouvoir avoir des équipes dans chaque catégorie et puis l'élan a été donné pour créer une nouvelle équipe féminine. Comme on a justement le championnat qui a été réduit d'avril à juillet, ça a permis aussi de retrouver des joueuses qui sont principalement sur la glace. On a, je dirais, une bonne moitié de l'équipe, si ce n'est pas un petit peu plus, qui vient de la glace. Et puis après, il y a des autres joueuses comme moi notamment, qu'on est des, on dit, mais purs produits du inline.
Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, le hockey sur glace n'est plus forcément une concurrence pour votre sport ?
Si, ça reste une concurrence, puisque la Fédération suisse a fait le choix de réduire le championnat d'avril à juillet au lieu de l'étendre comme toutes les autres catégories de mars à octobre. Donc il y a vraiment cette concurrence du hockey sur glace, mais il y a aussi cette volonté de pouvoir intéresser le plus grand nombre en réduisant le championnat.
Jessica Murizet répondait à Marceline Michon. L'équipe féminine du IHC Bienne débutera le championnat samedi à Basse-Cour. Voilà qui marque la fin de ces informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite de journée sur RJB.
RJB Sport.